Elles étaient méchantes, leurs œuvres. On n'aime pas d'être ébloui. Car tout qui agit de l'aide aux actions est la lumière. Et il ne vient pas auprès de la lumière, afin que ne soient pas réprimandées ses œuvres. Or, celui qui fait la vérité, vient auprès de la lumière, afin qu'elle soit manifestée, ses œuvres, parce que en Dieu, elles sont se trouvant un. Autrement dit, les œuvres se trouvent faites en Dieu. Vous aurez remarqué, on est passé de ce que Jésus dit à une sorte de méditation. C'est comme si l'évangéliste s'était substitué à Jésus et continuait la réflexion. Ça, c'est sagesse. Vous ne savez pas où Jésus s'arrête. Bon, il a dit les Amen, Amen, et puis il continue de manière joie. Après cela, il faut lire tout ça ensemble, il vint Jésus et ses disciples vers la terre de Judée. Et là, il passait du temps avec eux. Et il baptisait. Donc il est sorti de Jérusalem. Sans doute que Nicodème est venu le trouver à Jérusalem. On ne le situe pas. On dit un chef des Juifs. Mais on peut supposer que parce qu'il parle du chef des Juifs et des Pharisiens, il s'agit de Jérusalem. Et puis voici que maintenant, il s'en va un peu plus loin, sur la terre de Judée, le pays des Juifs. Tout autour de Jérusalem. Et là, il passait du temps avec eux. Et il baptisait. Saint Jean est le seul à nous dire ceci. Mais il va tout de suite corriger. Or, il était aussi Jean, baptisant en Ainon, proche de Salim. C'est pas très bien où c'est. Parce que les eaux étaient nombreuses là. Mais c'est l'endroit qu'on appelle généralement aujourd'hui encore Bethabara, et où, quand ce n'était pas un territoire militaire, généralement, les orthodoxes allaient faire les baptêmes. Les baptêmes de Jérusalem et des environs, hein, se faisaient là, au Jourdain, à cet endroit. Parce que les eaux étaient nombreuses là. Et ils se rendaient là. Et ils étaient baptisés. Maintenant, vous voyez, on a mis l'endroit, parce que comme c'était une loi militaire depuis 67, on a mis l'endroit beaucoup plus près du lac Tibériade, au nord. On appelle ça Jordanite. Parce que les eaux étaient nombreuses là, et ils se rendaient là, et ils étaient baptisés. Car ils n'étaient pas encore se trouvant jetés dans la prison, Jean. Il arriva donc une contestation d'entre les disciples de Jean, avec un juif, au sujet de purification. Il raccroche toujours les mots, hein, si nous trouvons la purification. Et ils vinrent auprès de Jean. Et lui dire, Rabbi, c'est un Rabbi. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui toi tu as rendu témoignage, voit celui-ci baptisé. Et tous viennent auprès de lui. Je répondis Jean, et il dit, il ne peut pas, un homme, recevoir pas même une chose, si éventuellement, elle n'est se trouvant donnée à lui. Vous-même me rendez témoignage que je dis, je ne suis pas moi le Christ, mais je suis envoyé devant celui-là. Celui qui a l'épouse est l'époux. Or, l'ami de l'époux, qui se tient debout et l'entend, de joie il se réjouit par la voix de l'époux. Celle-ci donc, voir la mienne, se trouve accomplie. Celui-là, il faut qu'il croie. Or moi, je sois amoindri. Celui qui vient d'en haut, celui qui vient de nouveau, il est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, il est de la terre, et de la terre, il parle. Celui qui
qui vient du ciel, il est au-dessus de tout. Ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, de ceci il rend témoignage. Et son témoignage, personne ne le reçoit. Celui qui reçoit son témoignage, curieux, personne ne le reçoit, celui qui reçoit. Marqua d'un sceau que Dieu est vrai. Car celui que Dieu envoya, les paroles et événements de Dieu, il les parle. Car non avec mesure, il lui donne l'esprit sans mesure, traduisant généralement et exactement. Le Père aime le Fils, et il donne à tout dans le Saint. Celui qui croit vers le Fils a vie éternelle. Celui qui se rebelle contre le Fils, il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà donc le texte du chapitre 3. De quoi ça cause ? Il y a un juif, il y a un pharisien, qui est en train d'accéder au temple, qui est le corps de Jésus, comme on l'a dit précédemment. Et il est question de savoir ce que signifie recevoir la vie. Donc on a parlé de vie au début, on a dit qu'elle était la lumière des hommes. Maintenant, on va essayer de découvrir concrètement ce que signifie la vie. Et comment la vie d'un homme est une figure, c'est une parabole de la vie que Dieu seul peut donner. Alors il y a beaucoup de choses dans un texte comme celui-ci. D'abord, vous avez un monsieur qui voyage, qui fait voyager dans l'histoire, c'est-à-dire un homme en quête, en recherche, comme on dit aujourd'hui. Et voyez, il vient trouver un maître de sagesse. Pour découvrir une sagesse c'est pas quelque chose d'intellectuel ou cérébral, une sagesse c'est quelque chose de concret. Et donc il vient chercher auprès de Jésus une lumière, et donc aussi une vie. Comprendre mieux, comprendre davantage, comprendre plus profondément quelle vie il reçoit de Dieu. En quoi Dieu vraiment me donne vie. Et donc, il vient trouver Jésus pour deux choses. Il dit d'abord, nous savons que tu es venu de Dieu. Donc là, il a fait une découverte. Donc il vient chercher une vraie parole de sagesse. Il a reconnu Jésus comme un maître. Nous savons, nous les pharisiens, parce que nous pouvons découvrir la compétence d'un maître. C'est la première chose à laquelle il a accédé. Deuxièmement, et cela explique la confiance qu'il fait à Jésus, on ne peut pas faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Donc, déjà, cet homme, Nicodème, lit les signes. Ce terme de signe que nous avons déjà vu trois ou quatre fois, c'est très important chez elle. Nous le verrons progressivement. Et je fais un signe à quelqu'un. Faire un signe à quelqu'un, c'est découvrir qu'il y a, entre la personne qui fait le signe et la personne qui le reçoit, il y a une communication. Le signe peut être déchiffré. Si je lis un livre dont je ne connais pas la langue, je ne peux pas déchiffrer. Il y a des signes, mais je n'en perçois pas le sens. Le signe me permet d'accéder à une communication, à une relation. Une couleur peut nous rappeler un vêtement, une tenture, peu importe, quelque chose qui nous met en relation. Ça nous le rappelle. Donc ici, il y a une sorte de connivence entre l'homme, le pharisien, et Jésus. On se découvre comme étant habité par Dieu, l'un de ses maisons. Et donc, Dieu doit être avec toi, puisque dans
seulement tu enseignes, mais tu fais. Ce qui veut dire que la sagesse ne reste pas intellectuelle, la sagesse passe là. Jésus lui dit, c'est très bien ce que tu as découvert. Mais tu peux obtenir la même sagesse que celle qui est en moi si tu acceptes d'être renouvelé. Si tu acceptes que ta vie te soit redonnée tout entière. Non à partir de ce que tu es, mais à partir de ce que tu n'es pas. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand un être est mis au monde, ce n'est pas à partir de ce qu'il est qu'il n'y est pas. Mais il se reçoit tout entier du nouveau. Et c'est ça que Jésus veut faire percevoir à Nicodème. Qu'il faut qu'il lâche son savoir pour qu'il découvre quelque chose de nouveau, pour qu'il se découvre entièrement renouvelé. C'est la difficulté de celui qui croit savoir ou qui croit avoir. C'est qu'on met tellement la main sur ce qu'on a ou sur ce qu'on est, que l'on ne peut plus recevoir. On est encombré par soi-même. Et c'est ce que Jésus demande, d'une autre manière, à Nicodème, c'est de se désencombrer de sa propre personne. Et il dit à son adresse, dit Nicodème, comment peut-il un homme être engendré étant vieux? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris. Parce qu'un rabbin sait très bien ce que parlait Jésus. Mais on voit bien qu'il veut être sûr de ce que j'ai dit. Il demande, mais en fait, est-ce que quand tu es vieux, tu peux lâcher ton existence, retourner dans le sein de ta mère et te laisser à nouveau mettre au monde? Jésus lui dit, non, c'est pas possible de manière humaine. C'est pas avec tes forces humaines que tu peux faire cela. Il faut encore que tu le reçois. Tu reçois ta nouvelle naissance de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Tu dois être engendré d'eau et d'esprit. Et si nous avons bien vu ce qui se passait lorsque Jean-Baptiste annonçait Jésus, il lui disait que moi je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient derrière moi, qui vient derrière moi, et dont je ne suis pas digne que je délie la courroie de sa sandale, et on voit que celui qui baptise d'eau et d'esprit. Celui-ci est celui à propos duquel moi j'ai dit, derrière moi vient un homme qui devant moi est arrivé parce que premier de moi il était. Moi je ne le savais pas. Et moi aussi, oui. Il faut toujours accéder à une sagesse. Je ne sais pas. Mais après qu'il fut manifesté en Israël, en raison de ceci, je vais moi, baptisant dans l'eau. Et il faut d'abord accéder à une purification de soi. Ce que Jean-Baptiste faisait. Et alors, j'ai considéré l'esprit descendant comme une colombe du ciel. Vous savez que la colombe symbolise toujours l'Église. La colombe symbolise un peuple. Et elle demeurait sur lui. Et moi, je ne savais pas. Mais celui qui me manda baptiser dans l'eau, celui-là me dit, celui sur qui éventuellement tu verras l'esprit descendant et demeurant sur lui, celui-là est celui qui baptise dans l'esprit. En quelque sorte, il faut entrer dans le corps de Jésus. Pour se laisser renouveler, il faut recevoir son corps. Attention, parce que ceci nous engage déjà très loin. On va voir comment il va approfondir cela au chapitre 6e. Être engendré des bréteaux et d'esprit. Et sinon, il ne peut pas entrer dans le royaume. On ne peut pas le voir si on n'accède pas à une réalité spirituelle. La réalité spirituelle, ce n'est pas celle que les gens partagent d'habitude, ce n'est pas celle que les médias transmettent. La réalité spirituelle est celle qui est de l'expérience. Et l'ordre de l'expérience, ce n'est pas nécessairement de l'ordre de l'expérience sensible. C'est de la découverte intérieure. C'est ce qui est en train de lui dire. Des termes que lui peut normalement comprendre.
à quel niveau te mets-tu? Te mets-tu au niveau de la caducité, de la fragilité, ou bien te mets-tu au niveau de l'esprit, c'est-à-dire de la présence de Dieu? Mais le malheur, c'est que, ou bien le bonheur, c'est que tu n'as pas pris l'esprit. Il est libre. Eh bien, celui qui est né de l'esprit devient libre. Il n'est plus perturbé. Il suit le mouvement de l'esprit. Et la vie éternelle, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. L'esprit, là où il veut, il saute, c'est sa voix de l'homme. Ainsi en est-il de tout qui se trouve engendré de l'esprit. Il devient libre comme l'esprit. Et alors, voyez, Nicodème passe du qu'est-ce que c'est, le contenu, qu'est-ce qu'il faut, à comment cela peut-il se faire, comment cela peut-il arriver. Ce n'est pas dans mon pouvoir, donc ça peut m'arriver. C'est généralement contraire. Ce n'est pas dans mon pouvoir, donc ça ne m'arrivera pas. Non. Puisque ce n'est pas dans mon pouvoir, ça peut arriver, ça peut m'être donné. Si j'étais dans mon pouvoir, ça ne m'arriverait certainement pas, parce que c'est pas possible. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Si tu restes au niveau de la chair, ça ne t'arrivera pas. Si tu t'ouvres à l'esprit, cela te l'a. Et alors Jésus lui dit, comment? Tu es le maître d'Israël, tu ne connais pas ça? Tu ne connais pas l'esprit. Pourtant tu es maître en Israël. Donc tu n'as pas approfondi suffisamment la sagesse qui est en toi. Jésus dit, c'est vrai que nous parlons en connaissance de cause. Vous remarquez que Jésus vient nous dire « nous ». Donc il nous met avec lui. Ce que nous savons, nous le parlons. Et on voit bien que ça devient la méditation de Jean et de l'Église primitive. C'est Jésus, mais Jésus qui est devenu le corps de l'Église. Et nous parlons de ce que nous avons vu et nous rendons témoignage. C'est la seule chose que nous avons à faire, rendre témoignage. Mais notre témoignage, vous ne le recevez pas. Quand on se défie, on ne reçoit pas. On ne croit pas. Puisque la foi, c'est faire confiance d'emblée à l'autre. Mais nous voulons toujours mettre la main sur les signes de la confiance. C'est-à-dire que nous ne faisons pas confiance. Puisque nous croyons ce que nous voyons. Or, précisément, ce qui est à croire, c'est ce qu'on ne voit pas. Si les réalités terrestres que je vous dis, vous ne les croyez pas, comment, si je vous dis les réalités terrestres, vous ne les croyez pas. Il faut commencer par découvrir que Dieu est présent déjà en vous. Mais seulement, il faut passer à l'autre plan. Il faut découvrir que Jésus, parce qu'il est le corps de Dieu mis à notre disposition, il peut nous dire exactement qui est Dieu. Et donc, il devient l'unique chemin. Et c'est ça que le pharisien a du mal de découvrir. Pourquoi? Et parce qu'il pense que la loi lui suffit. Tout le chemin de l'Écriture, qui est aussi un chemin spirituel, la loi est aussi spirituelle, il croit que cela lui suffit. Or, Jésus va nous révéler une surabondance dont nous allons découvrir petit à petit quelle signification. Jésus va nous dire quelque chose de Dieu. Personne ne monte vers le ciel. Sinon, celui qui descendit du ciel. On ne peut pas aller voir comment ça se passe là-dessus si quelqu'un ne vient pas nous dire le chiffre de l'âme. Et voilà que pour la deuxième fois, nous retrouvons ce thème du chiffre de l'âme. Seul peut parler en connaissance de cause celui qui a une intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu, ça s'acquiert en se recevant tout entier de Dieu. Vous savez, il ne fait rien d'autre pour le moment que de nous redire le verset 12b du prologue. Nous qui sommes engendrés, qui avons reçu le pouvoir de devenir enfants. Et puis, il prend ce passage qui est curieux. Pourquoi cette référence? Et selon que Moïse exalta le serpent dans le désert. Ainsi il faut que soit exalté, et il reprend, le Fils de l'homme, afin que tout qui croit en lui ait vie éternelle. Là, nous nous trouvons dans le livre des Nombres. Vous connaissez ce passage du livre des Nombres, qui nous parle de ces fameux serpents dont la morsure était brûlante. C'est au chapitre 21e du livre des Nombres. Quand on fait le chemin en Transjordanie, donc on a fait déjà la découverte de la loi au Sinaï, on a fait la découverte de son péché dans le Vaudor, et Aaron vient de mourir dans le Kadesh, et on va jusqu'à Moab. Ils quittèrent Hor, la montagne, par la route de la mer de Soufre. Donc c'est le chapitre 21e des Nombres, le chapitre 4, pardon, pour contourner le pays des hommes. En chemin, le peuple perdit patience. Donc il y a une perte de patience. On ne se donne pas le temps, on ne donne pas le temps à Dieu, de nous laisser rouler. On pense tout de suite que ça ne va pas. Mais c'est comme le peuple d'Israël. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Alors on se révolte, on dit agressif. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Vous deviez vous donner la vie, et voilà que nous avons la mort. Car il n'y a ni pain, ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. C'est le pain qui vient du ciel, nous verrons ça au chapitre. Dieu envoya alors contre le peuple des serpents brûlants, des séraphins. Le séraphin, c'est un serpent brûlant. Le dragon, si vous voulez. Pour la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. C'est pas les dragons qui sont brûlants. C'est la morsure qui est brûlante, pour la sorte du feu. Dans la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple va dire à Moïse, nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ses serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui répondit, façonne-toi un brûlant. C'est peut-être là que vient les représentations de séraphins, le brûlant. Et pour nous, ce sont les cierges. Au lieu que Dieu veut. Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Ah, c'est que le bonheur, on mettait aussi sur un étendard. On mettait sur un piquet, je commence. Et cette fois-ci, il faut mettre un serpent à caduquer sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. C'est de là que vient effectivement le caducé. Ouais, dans la tradition chrétienne, c'est aussi la tradition d'Hippocrate, qui prend déjà le serpent comme signe de vie de mort, ou de mort de vie. Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard, qui aura été mordu, et le regardera, restera en vie. Attendez, ceci va revenir au chapitre 10 de Pierre. Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard, et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Regarder le signe de la vie dont on est atteint par la mort. C'est une expérience extrêmement importante, c'est-à-dire ne pas avoir les yeux rivés sur la mort. Pas se replier sur la mort, mais découvrir que la vie est au-delà de la mort. Donc voilà déjà dans le livre des Nombres, ce qui a été dit à propos du serpent. Et justement, Jésus reprend, mais probablement cette image de Jésus lui-même, mais qui est reprise et méditée par Saint Jean, le véritable serpent des reins, c'est la personne de Jésus. Le serpent n'est qu'une figure. Le serpent est un animal ambigu, ambivalent, Jésus devient aussi signe de la mort. Il est comme une victime. Et en même temps, sa mort donne la vie. Voyez comment il est fils de Joseph. Comment il est amoureux de Dieu. Et selon que Moïse exalta, le mit debout sur une pique, le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit exalté le Fils de l'homme. C'est-à-dire que le Fils de l'homme monte sur son trône de gloire qui est la croix. La croix pour Saint Jean est toujours le trône de gloire de Jésus. Nous avons l'occasion de le voir. C'est pourquoi il parle toujours d'exalter ou de glorifier quand il parle de monter sur la croix. Ainsi faut-il que soit exalté le Fils de l'homme, afin que tout qui croit en lui ait vie éternelle. Que l'on reçoive par le regard la vie qu'on ne peut pas se donner à soi-même. Qu'on ne peut pas découvrir par soi-même. Donc voilà une méditation, mais vous voyez, à ce moment-là, Jésus a quitté Nicodème. Nicodème a quitté Jésus. Tu es maître en Israël, et puis on continue. Bon, je cite que leurs corps sont piqués, bien sûr, à Nicodème. Mais on est déjà passé plus loin. On a parlé de l'esprit de Jésus, et puis maintenant on parle de Jésus mort et glorifié. Et puis, on va expliquer ce qu'est le nouveau serpent d'airain. Le nouveau serpent d'airain est comme l'ancien, mais d'une manière beaucoup plus profonde. Le serpent d'airain, c'est un signe de l'amour de Dieu. La vie au-delà de la mort est un signe de la gratuité de l'amour divin. Et voilà qu'il introduit, comme cela, au verset 16, le verbe aimer. Donc, l'esprit dont on parlait était vraiment un esprit de vie et donc d'amour. En fait, donner la vie à quelqu'un, c'est normalement le signe d'un amour. Je ne donne une vie que parce que j'aime. J'aime. Conjoint, la conjointe, l'enfant qui va venir. Ainsi, il est ma Dieu. Et voilà le monde de Dieu. Dieu aime le monde qu'il a créé. Comme si ce monde était son fils. C'est vrai. Il est comme identifié à son fils depuis que le fils a fait alliance avec le monde. À travers Israël, symbolisé par la mère de Dieu. À la mère de Jésus. De sorte que le Fils n'est pas, ce n'est plus un unique engendré, c'est le Fils. L'unique engendré, il le donna. Ce que j'ai de plus cher, je le donne. Voilà le cœur de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, dira Jésus. Eh bien, le Père donne ce qu'il a de plus cher, sa vie. Il le livre et le donne, afin que tout qui croit en lui, c'est toujours l'image du serpent des reins qui est présent, ne périsse pas, mais ait vie éternelle. Pas moyen d'accéder à la vie éternelle si on ne reçoit l'esprit qui fait vivre et si on adhère à Jésus par son acte d'amour. Vous voyez, comme tout ce passage est unitaire. Nous entrons vraiment dans l'intimité de Dieu. Et c'est bien ça que le pharisien ne pouvait pas percevoir. Pour un pharisien, Dieu dit ce qu'il faut faire pour aller vers Dieu. Mais il ne dit pas l'intimité de Dieu. Or voilà, que Dieu dévoile sa propre intimité. Car, maintenant il explique, il n'envoya pas Dieu, le Fils, vers le monde, afin qu'il juge le monde. Il va exprimer ce qu'est l'amour. L'amour, ce n'est pas juger. Et vous voyez, le verbe juger chez Saint Jean a aussi deux significations. Il peut signifier évaluer, mais il signifie le plus souvent condamner. Et il a sans doute ce sens-là ici, parce que, justement, le terme juger se trouve opposé à sauver. Sauver, c'est créer. Il n'envoya pas Dieu son Fils vers le monde afin qu'il juge, donc il ne le condamne pas. Mais afin qu'il soit sauvé le monde par lui.
comme la morsure des serpents était en vue d'une guérison, en vue d'une vie, ainsi la morsure du jugement, de la condamnation éventuellement, du reproche, est en vue de la vie. Donc si Dieu nous dévoile en Jésus-Christ, s'il nous dévoile notre péché, c'est pour aller plus loin, avec lui. Nous verrons comme tout ça se dévoilera au chapitre 19, afin qu'il soit sauvé le monde par lui. Et alors, vous avez le commencement de ces expressions de Saint Jean, qui sont typiquement des expressions de sagesse. Celui qui croit, celui qui ne croit pas. Tout qui agit, tout qui n'agit pas. Tout qui fait la vérité, tout qui ne fait pas la vérité. Ça, c'est une manière de lire l'Écriture, de dire, ça c'est sapientiel. Ça ne veut pas dire, il y a deux clans. Il y a le clan des bons, il y a le clan des mauvais. Il y a le clan de ceux qui savent, et il y a le clan de ceux qui ne savent pas, non? Ça veut dire, nous sommes en liberté. Celui qui croit, celui qui ne croit pas, ça veut dire, la liberté nous est donnée comme une liberté à vivre. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, n'est pas condamné, puisqu'il adhère à lui. Celui qui ne croit pas se trouve déjà jugé, puisqu'il n'adhère pas à lui. Je traduis maintenant autrement. Le seul critère du salut, c'est Jésus. Il est celui qui tombe, il n'y en a pas d'autre. Mais tu es libre d'adhérer ou de ne pas adhérer, de le faire plus ou moins. Pourquoi se trouve-t-il déjà jugé? Parce qu'il n'a pas cru vers le nom, il ne s'est pas remis dans la personne du Fils unique en son vrai Jésus.
Le questionnaire dit « Vous le croyez ?»
Ah oui.
Il a témoigné.
Ah oui. Mais il n'a pas voulu croire. Mais au fond, c'est pas faux, parce que c'est une parole de liberté. Mais il le dit dans cette dualité-là qui revient constamment chez les gens, on va jusqu'au bout. Et alors, je lui dis, ce que c'est que le jugement? Le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, c'est que les hommes aiment ou veulent davantage, et ici, de faire gagner. Dieu a aimé le monde, et les hommes aiment plutôt l'obscurité que la lumière.
Mais ce que nous aimons le moins,
mais ce que nous revendiquons le plus, c'est la liberté. Nous revendiquons d'être libres à notre manière. C'est-à-dire être l'esclave de notre propre manière de voir la liberté. Or, aimer l'obscurité, c'est aimer ses sécurités, ses limites, et se trouver avec et ne pas en sortir. Ne laissez pas Dieu bousculer notre manière de voir. Et vous voyez, au fond, pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi voulons-nous nous sécuriser en quelque sorte, nous replier sur nous-mêmes, voir les choses à notre mesure? Mais parce que nous avons peur du courant d'air, de l'Esprit Saint. Nous avons peur de la lumière. Parce qu'à ce moment-là, on se libre. Quand on est libre, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Même beaucoup mieux de savoir exactement ce qu'il faut. Ils aimèrent les hommes plutôt l'obscurité que la lumière. Généralement, on préfère sa lampe de poche au grand soleil. Si un être était méchant, on aime finalement ce qu'on fait. Et ce qu'on fait étant toujours limité, nous aimons notre limite. Tout qui agit de l'aide d'action est la lumière. Et il ne vient pas au. Quand nous avons peur de la lumière, quand nous avons peur de la liberté, c'est que nous avons peur de nous quitter. Et c'est bien ce que Jésus dit à Nicodème et à tous les Nicodèmes que nous sommes. C'est la chose la plus difficile à faire. C'est passer, accéder au corps du Christ. Celui qui fait la vérité vient auprès de la lumière. Afin qu'elle soit manifestée, ses œuvres, les œuvres de la vérité, qu'en Dieu elle se trouve être pleinement aux œuvres. La vérité, il n'y a que Dieu qui l'a fait. Et vous voyez, notre vie se passe à passer doucement de l'ombre à la lumière.
nous avons, on semble s'arrêter, et nous avons une sorte d'altercation.
On quitte Nicodème, on ne dit pas qu'il s'en va. Et puis on voit que Jésus s'en va avec ses disciples vers la terre de Judée, et donc il retrouve l'endroit où Jean va. Et on voit bien qu'il y a une confrontation à cet endroit. Alors beaucoup d'exégètes disent, voyez, derrière cette altercation de la fin du chapitre 3, nous avons un problème d'église primitive. Il y avait les disciples de Jean qui avaient continué à suivre Saint Jean, qui étaient des Johannés, qui n'avaient qu'un baptême, celui d'eau, et puis il y avait les disciples de Jésus. Et de temps en temps, ça se bagarre. C'est possible qu'il y ait ça en arrière-fond. Et de fait, on nous dit que Jésus baptisait ses disciples, et on nous dit aussi que Jean baptisait. S'il nous dit les deux choses, ça veut dire qu'il y a eu probablement un certain temps deux baptêmes. Un baptême de préparation, si vous voulez, et un autre baptême, c'est un baptême dans l'esprit. Et puis on vous dit, si ça continuait comme ça, il y en a deux qui travaillaient en même temps, c'est que Jean n'était pas encore rempli. Et donc il y a eu une contestation. On demande qui a raison finalement. Et voyez, au lieu d'aller trouver Jésus, on va trouver Jean. Ce sont des disciples qui trouvent que Jean avait été en quelque sorte lésé par cet autre qui était venu. Alors il faut vérifier le témoignage de Jean. Et voyez, ce passage est mis ici, probablement, pour faire droit à ces difficultés qu'il y avait dans l'Église, et pour bien manifester par Jean lui-même, c'est Jean lui-même qui dit que Jésus est bien celui dont il a parlé. Mais en même temps, pour bien montrer ce qu'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui sait ça devant lui-même. Nous ne pouvons rien recevoir si cela ne nous est donné du ciel. Et Jean a reçu comme grâce d'annoncer Jésus, de s'effacer et d'aller en prison. C'est sa grâce. Vous-même rendez le témoignage que je dis, je ne suis pas moi. Moi, je suis celui qui est envoyé. Et ceci me paraît vraiment important pour comprendre Canard. Celui qui a l'épouse est l'époux. Ce qui n'était pas encore clair, je veux dire, il est évident que dans ce texte ici, l'épouse est bien Jésus. Et que l'épouse, c'est le peuple d'Israël, symbolisé par Marie, et derrière le peuple d'Israël, c'est l'humanité entière. Et que fait Jean-Baptiste dans tout ça? Il est l'ami de l'épouse. Et il fait allusion justement à une coutume qui existait dans le judaïsme de l'époque. L'ami de l'époux, c'était celui, voyez, le chaperon, nous dirions aujourd'hui. Celui qui accompagne le fiancé et la fiancée avant le mariage. Et il avait une place spéciale dans la célébration du mariage. C'était celui qui venait présenter au fiancé la fiancée. Il introduisait la fiancée. Et c'est très beau, ça, comme idée. L'époux, l'ami de l'époux, c'est celui qui est témoin d'amour, témoin d'une relation d'amour, mais qui ne met pas la main sur cette amour, ne veut pas le prendre à soi. Il est heureux que cet amour existe entre Jésus et un autre. C'est extrêmement profond. Mais c'est la véritable joie de l'apôtre. Oui, l'apôtre, c'est celui qui se réjouit parce que Dieu est là et que Dieu se signale. Et il ne veut pas attirer à lui l'amour ou l'enlever de son prochain. Oui, je suis heureux que toi, tu réussisses à aider cette personne alors que moi, je n'ai pas pu. C'est tellement merveilleux. Parce que ce n'est pas intéressant ou important que c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est important que cette personne soit mise en contact avec Dieu. C'est exactement la joie de l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux, c'est vraiment la réalité profonde de toute amitié.
Ce qu'on aime dans quelqu'un, c'est la présence de l'époux. Et ce qu'il faut faire grandir dans ce quelqu'un, c'est la réalité de l'époux. Donc l'amour, faire grandir l'amour et rester à sa place. Or l'ami de l'époux, qui se tient debout, il entend, de joie, il se réjouit par la voix de l'époux. Cette voix d'amour de l'époux, il entend l'époux qui cajole son épouse et il en est heureux. Il dit, bah, pourquoi pas moi ? Donc il dit, c'est tellement bien ce soir. C'est ainsi donc la joie, la mienne, se trouve à mon esprit. Puisque précisément ma joie, c'est de pouvoir m'effacer devant lui. Magnifique définition. Celui-là, il faut qu'il croie. Par moi, que je sois amoindri. Et on vous a annoncé qu'il n'avait pas encore été mis en prison. Et ça veut dire qu'il va y aller. Il faut que je sois amoindri. C'est merveilleux. C'est merveilleux de délicatesse. Et puis alors, il reprend son discours de méditation, qui est un discours sapientiel. Celui qui vient d'en haut, qui vient de nouveau, il est au-dessus de tout. Il dit, il est de la paix, et pas en terreur. Et nous sommes toujours l'un et l'autre. Nous sommes entre ange et bête.
On dirait qu'il revient à l'entretien avec Nicodème.
Ben oui. Ah oui, tout à fait. C'est un Nico. En fait, il n'a pas quitté, hein. Et parce qu'il ne quitte jamais sa méditation.
Mais Nicodème, disparu de la circulation. Il revient dans le temps.
Ça, c'est encore une question que nous avons vue avec Isaïe. Pourquoi le salut vient-il toujours trop tard? Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Ce qu'il a vu, voir, entendre, ça c'est le vrai propos. De ceci, il rend témoignage. Et son témoignage, personne ne reçoit. Vous voyez, ce qu'on a dit de Jésus, dans le prologue, se dit maintenant du témoin. Tout le monde.
Mais qui reçoit son témoignage,
marqua d'un sceau que Dieu est fait. Quand on reçoit le témoignage de quelqu'un qui croit, on vérifie son témoignage. Son témoignage passe. Et donc il devient efficace. Donc si je veux faire réussir le témoignage de quelqu'un, je marque en même temps ma foi et la sienne. Je marque d'un sceau que Dieu est fait. Car celui que Dieu envoya, et qui n'utilise non plus le terme parole tout seul, et en utilise un autre terme, rémata, les paroles événements de Dieu, il les parle. Car non par les mesures qu'il donne l'esprit, Dieu donne l'esprit sans nous. Et c'est nous qui mesurons l'esprit à notre niveau, à notre aune. Et alors, ainsi il aime à Dieu le monde, comment est-ce qu'il aime Dieu le monde? Il aime le monde comme son fils. Et au dernier verset, le Père aime le fils et il donne à tout le monde. Celui qui croit au fils a la vie éternelle, celui qui se rebelle contre le fils, il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu le mort. Qu'est-ce que ça veut dire de nouveau? C'est une mise en liberté. Je suis libre de voir Dieu comme un être colérique, comme un être d'amour. C'est moi qui détermine la colère ou l'amour de Dieu. C'est ma façon de le voir. Comme Nicodème. Si tu te défies, tu vois la colère. Si tu te confies, tu vois l'amour. Alors, dis-moi comment tu me vois et je te dirai qui tu es. Et si tu pêches, si tu es rebelle, tu viens juste à point pour être sauvé. Comme donc ils connurent Jésus, qu'ils avaient entendu, les pharisiens, tiens, non, c'est pas les pharisiens, c'est Nicodème. Ah oui, mais Nicodème est en quelque sorte le porte-parole du monde pharisien. Qu'ils avaient entendu, les pharisiens, dire que Jésus faisait de plus nombreux disciples et en baptisait plus que Jean. Cependant, du moins Jésus lui-même le baptisait pareil, il corrige. Mais ses disciples, il ne faut pas se tromper.
pieds d'une basilique. Il laisse ça la Judée, qui s'éloignait de nouveau en Galilée. Donc on a fait une petite incursion, nous étions partis de Galilée, comme nous allions à Jérusalem, on a quitté Jérusalem pour la Judée, maintenant on repart de Judée en Galilée. On va vers le nord. Or, il fallait que lui traverse par la Samarie. Il ne faut pas traverser par la Samarie, hein. On peut aller très bien par le Jourdain. La route est excellente, elle est même plus chaude. Parfois, quand il fait chaud, il vaut mieux traverser. Il lui fallait traverser la Samarie. Mais la Samarie, c'est le royaume du Nord. Celui qui avait été en dissidence avec le royaume du Sud et qui avait continué à être dissident. Il vient donc vers une ville de la Samarie, dite Sychar. Et justement, ce Sychar, on le considère généralement comme une sorte de faubourg de Sychem. D'autres. Il y a des textes qui ont changé Sychar en Sychem. Tout ça, c'est possible. Dites Sychar, prochaine, donc proche, du terrain qu'il donna Jacob à Joseph. Alors, il y avait là une source de Jacob. Jésus donc se trouve en avoir peiné à cause du voyage, s'était assis ainsi sur la. L'heure était environ la sixième, c'est-à-dire midi. Vient une femme de la Samarie pour puiser de l'eau. On avait déjà puisé de l'eau, je crois, à Cana. C'est devenu du vin. Vient une femme de la Samarie pour puiser de l'eau. Il lui dit, Jésus, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient éloignés vers la ville, afin qu'ils achètent des nourritures. Et lui dit donc la femme, la Samaritaine, comment toi, étant juif, tu réclames à boire de moi, étant une femme samaritaine, c'est tout ce qui ne va pas. Car ils n'ont pas de relation, il explique, car ils n'ont pas de relation juive avec Samaritaine. Justement, là, il y avait une défiance.